Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouverons ensuite nos critiques attitrés, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule, et puis nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaïm avec toujours ses études glanées dans le monde entier et dans toutes les langues. Et notre bibliothécaire du jour, c'est Eva Jacquot, qui nous parlera de Cendrillon. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook, et tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Ah, je vous fais pas la chanson « Amour, gloire et beauté », des mots qui font rêver, on pourrait rajouter la fortune aussi. Eh bien, nous allons vous faire rêver aujourd'hui dans la librairie de l'écho, enfin rêver parfois cauchemarder puisque nous allons pénétrer l'univers très fermé des plus grandes fortunes. Alors, qui sont-ils? Comment vivent-ils? Que veulent-ils? À quoi aspirent-ils? Sont-ils les ennemis du peuple ou au contraire, sont bienfaiteurs? Comment ils préservent leur fortune et surtout, comment ils se la transmettent? Réponse avec nos deux invités, Vanessa Schneider, bonjour.
Bonjour.
Vanessa, vous êtes grand reporter au Monde et vous publiez avec votre consoeur Raphaël Baquet Succession, l'argent, le sang et les larmes, c'est chez Albin Michel. Fabrice Dalméda, bonjour.
Bonjour.
Fabrice, vous êtes historien, professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas et vous publiez, vous, une histoire mondiale des riches chez Plon. Allez, on commence avec vous. Fabrice Dalméda, avant de se concentrer sur la France, pourquoi est-ce que de tout temps on n'a jamais aimé les riches?
Certains d'entre eux méritaient qu'on les aime pas, parce qu'il y a eu quand même quelques marchands de canons un peu terrifiants, pas très honnêtes. J'en prends un dans le livre qui s'appelait Basile Zaharoff et qui était le champion de l'entourloupe pour essayer de piquer les marchés à Schneider, à Krupp et aux autres.
Oui, d'accord, donc, mais vous dites, historiquement, il y a toujours une suspicion. Regardez ce qu'on a entendu à l'Assemblée nationale cette semaine, encore un député qui dit, mais quand quelqu'un est riche, c'est qu'il y a quelque chose de suspect derrière.
C'est Balzac qui avait dit, derrière chaque fortune se cache un crime. Derrière chaque grande fortune se cache un crime. Donc il y a effectivement cette impression que une trop grande fortune peut masquer quelque chose comme une avidité ou en tout cas une tare morale. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très lié au christianisme derrière ça, hein, et notamment dans sa version catholique, qui suppose qu'un certain dépouillement, un ascétisme, soit au fond un signe de bonne vie et de bonne mentalité.
Alors, en même temps, ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'on voit que les riches entre eux ne s'aiment pas non plus. Enfin, c'est-à-dire, les riches, on n'aime pas les riches, mais les riches entre eux ne s'aiment pas non plus.
Il y a des concurrences à couteau tiré. Il peut y avoir des mariages, mais il peut y avoir aussi beaucoup de violence. Fin 19e, d'ailleurs, je montre toutes les petits croche-pattes que se font justement les grands patrons de l'acier, que sont les Thyssen, que sont les Krupp, l'espionnage industriel, les articles de presse mensongers, hein, Schneider. Je montre ça dans le livre, va payer l'Écho de Paris pour faire une campagne de presse pour ruiner son adversaire Basile Zaharoff. Donc oui, il y a de la concurrence et il y a de la haine.
Alors, ce qui est passionnant dans votre livre, c'est que vous, comme vous refaites l'histoire, vous montrez que la sociologie finalement des riches, elle a beaucoup évolué au fil du temps.
Elle a beaucoup évolué, mais quand même, il y a, disons, dans nos pays, hein, dans les
c'est
pays.
C'est quoi les grandes ruptures, les grandes périodes, les grandes ruptures historiques?
Grande rupture, Première Guerre mondiale, qui ruine les petits riches, les rentiers disparaissent avec ça et restent les grandes fortunes qui vont continuer. Deuxième rupture, le communisme, 1917, qui détruit complètement les riches russes et qui va engendrer tout un monde avec la Chine notamment, qui jusque dans les années 90, hein, que ce soit en Russie ou que ce soit en Chine, il y a zéro milliardaire. Il y a un millionnaire en Russie en 1989. Un seul millionnaire. Aujourd'hui, en Russie, plus de 80 milliardaires. Et en Chine, plus de 2200, sans doute l'année prochaine, 2500 milliardaires. C'est-à-dire encore plus qu'aux États-Unis. Donc en quelques années, ces pays ont changé de dimension et sont devenus
des... du capitalisme.
Exactement, ce sont devenus des pays phares du capitalisme.
Mais en même temps, il n'y a pas un pays où il n'y a pas de riches.
Maintenant, non. Mais fut un temps, oui, avec le modèle communiste qui a constitué une rupture. Dernière rupture, faut pas l'oublier, la rupture de la fin des années 70 et des années 80 avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher, qui ouvre en fait la mondialisation et le monde tel que nous le voyons aujourd'hui.
Alors, il n'y a jamais eu autant de riches.
Jamais aussi riches.
Et ce qui n'est pas illogique, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de concentration non plus des richesses.
Oui, avec une optique qui s'est renforcée en fait depuis le 19e siècle, qui est que le monde capitaliste choisit un certain nombre de champions pour réaliser des très grands investissements. C'est très marrant parce que on pourrait penser que ça pourrait être coopératif, que ça pourrait être collectif, mais en réalité, dans notre système, on choisit des gens à qui on fait confiance pour gérer des fortunes colossales. Hein. J'ai parlé des Schneider en 19e siècle, mais les Arnaud que Vanessa Schneider connaît sont pareils, les Pinault, les Zuckerberg ou les Elon Musk.
Alors, vous répondez à une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des riches ? En gros, ils veulent quoi, les riches ? Est-ce que leur seule ambition, c'est de devenir de plus en plus riches ? Ou est-ce qu'au contraire, ils aspirent à d'autres choses ?
Il y en a beaucoup qui veulent pas forcément être le plus riche, mais qui ont l'ambition de faire le maximum de ce qu'ils peuvent. Il y en a beaucoup qui sont un peu des athlètes du capital, oui, mais... qui vivent avec une assaise énorme, qui travaillent comme des dingues.
Le but premier, c'est pas de faire du fric.
Pour certains, si. Pour certains, ils commencent même leur carrière en voulant prioritairement ça. Ensuite, il y en a d'autres qui veulent transformer le monde, qui se disent moi j'ai une idée ou j'ai un projet, je veux que le monde numérique soit partout, que ça rentre dans les familles. Donc voilà, un Steve Jobs, il démarre comme ça en se disant moi je vais créer un truc super.
Est-ce qu'ils sont tous un peu mégalos quand même ?
Légèrement, oui. Oui, légèrement. Mais il faut pas croire qu'ils sont d'une essence différente de nous, en fait. Beaucoup d'entre eux travaillent beaucoup, donc veulent beaucoup de loisirs et veulent pouvoir se reposer avec leurs copains, j'allais dire, de la même manière presque ordinaire que nous. Après, les lieux où ils vont le faire, les moyens qu'ils vont employer pour aller dans ces lieux et les fermetures qu'il y a dans certains lieux. Je prends l'exemple de Saint-Moritz, où on peut pas rentrer dans les restaurants d'altitude si on n'est pas membre du club. Et le club a été fondé dès la fin du 19e siècle avec des grandes fortunes européennes et suisses. Ça fait toute une différence.
Alors, vous dites les riches, ils ont le vrai pouvoir. Et ils sont le vrai pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus forts que les gouvernements ?
Non, c'est essentiellement, moi je dirais, une fonction. C'est-à-dire qu'ils ont une fonction clé qui est l'investissement. C'est à eux, c'est dans leurs mains qu'on a donné ce truc, on leur donne d'une certaine manière notre avenir. C'est-à-dire qu'on leur donne les moyens de développer au 19e siècle le chemin de fer, l'avion, qui va d'ailleurs déboucher sur les fameux jets qui les définissent peut-être le mieux, hein, un outil qui va très très vite, qui est exclusif, et que eux appellent modestement un petit avion. J'ai un petit avion, on va prendre le petit avion pour aller en vacances. Bah,
vous avez toute une partie du livre sur la jet set, qui est née de ce progrès technologique, parce qu'à
un moment donné, c'est le moyen qu'ils ont pour créer la rupture avec ceux qui volent commercial, comme on dit.
Est-ce que les riches, c'est bon pour un pays ou pas ? C'est-à-dire, en gros, est-ce que les riches, c'est des prédateurs ou est-ce que les riches, au contraire, c'est un bienfait pour un pays ? Moi, j'ai retenu une citation d'un économiste qui dit « Un vrai pays pauvre, c'est pas un pays dans lequel il y a beaucoup de pauvres, c'est un pays dans lequel il n'y a pas de riches. »
Voilà, historiquement, en fait, les pays qui n'ont plus de riches sont des pays qui souffrent beaucoup. La Russie soviétique a énormément souffert, la Chine communiste a énormément souffert et elle souffre un peu moins depuis qu'elle a autorisé la possibilité d'être riche. Donc, historiquement, malgré tout, les pays où il y a le plus de riches sont souvent ceux où l'on se porte un peu mieux qu'ailleurs.
Et vous dites qu'il y a un enjeu quand même qui est... il faut que ces riches rapportent, entre guillemets, à leur pays.
Mais c'est pas tous les riches. En fait, ce que j'essaie de montrer dans le livre, et parce que je suis historien, c'est que les riches, c'est pas une catégorie unique. Il y a des riches très, très différents. Il y a des prédateurs. Mmh. Je prends l'exemple de la famille Sackler, ceux qui ont fait, vous savez, les néo-opioïdes, l'oxycontin. Ouais. Ils ont créé des addictions, ils ont fait des centaines de morts par semaine. Exactement, ils ont fait des morts. On ramassait les cadavres de ce pseudo-médicament, et ils ont mis leur entreprise en faillite, ils ont pris l'argent des entreprises, ils l'ont mis dans des paradis fiscaux. On parle de milliards, là, de dizaines de milliards. Donc des gens comme ça, c'est des vrais prédateurs, il y en a dans le capitalisme, mais il y a en même temps d'autres personnes qui sont de formidables créateurs de valeur, conservateurs aussi de savoir-faire. Je pense au luxe français, on a des grands groupes de luxe, notamment le groupe Bernard Arnault. Ben, ces gens-là, ils ont conservé des savoir-faire, ils ont conservé des marques, ils ont conservé des emplois de manière assez importante, et ils ont conservé aussi d'une certaine manière, un savoir-vivre à la française, des bonnes boissons, des bons vins, voilà. Ce qui fait qu'un Steve Jobs disait à Bernard Arnault, dans un siècle, on continuera de boire du bon champagne, alors qu'on aura oublié les codes informatiques.
Allez, pour terminer, de tout votre livre, les deux, trois riches qui vous paraissent les plus rocambolesques, les plus incroyables.
Bah, y en a un qui est énorme, qui est Rockefeller, qui... De tous les riches,
c'est le plus grand riche de tous les temps.
Ouais, c'est le plus grand riche. C'est en gros deux fois la fortune de Jeff Bezos, plus d'un tiers de la fortune d'Elon Musk. Il est le seul dans son époque à avoir un tel niveau de richesse. Ensuite, il va être rattrapé par Ford, puis dépassé par Ford. Il y a une nana, moi, que je trouve intéressante. Elle est française. Elle s'appelle Liliane Bettencourt. Elle a été beaucoup décriée dans son grand âge, mais cette femme a été, je pense, le meilleur actionnaire de son entreprise. Elle se faisait présenter tous les produits. Elle les jugeait. Elle a eu l'idée avec son gestionnaire de faire l'alliance avec Nestlé qui lui a épargné tout risque de privatisation. Et puis elle a choisi ses patrons gestionnaires, Lindsay Owen-Jones, avec un talent extraordinaire qui lui a permis de devenir la femme la plus riche du monde.
Alors, la famille Bettencourt, qui figure bien évidemment dans votre livre.
Je vous ai fait la
formidable. Non, mais un vrai professionnel, Fabrice. Vous êtes épatant, parce que vous, Vanessa Schneider, avec Raphaël Baquet, alors vous êtes concentré sur la France et surtout sur un moment très particulier de la vie, finalement, de ces familles riches, c'est l'organisation de la succession. Et d'abord, ce qui est frappant dans votre livre, c'est que finalement, on se rend compte que assurer sa succession, bah, c'est moins une affaire d'argent que finalement, comme chez tout le monde, je veux dire, une affaire de sentiments, d'émotions. C'est pas que le business qui compte dans tout ça.
Bien sûr. Non, mais déjà, il faut avoir un chiffre en tête. En France, il y a seule une entreprise sur 10 qui survit à son fondateur. Donc, ça veut dire que la question de la transmission et de la succession, elle n'est pas si évidente que ça. D'abord, il faut avoir quelqu'un à qui transmettre, il faut avoir des héritiers ou des gens à l'extérieur, les juger capables, que ces héritiers soient intéressés.
Sujet, c'est l'orgueil du patriarche.
Tout ça est évidemment un sujet très complexe. Ouais. Et en effet, nous, ce qui nous a intéressés, c'est au-delà de l'argent, mais qui est assez réglementé. En fait, une succession, c'est réglementé. On ne peut pas léser un enfant en France plutôt que un autre, en laisser complètement un de côté. C'est évidemment le pouvoir qui est en jeu. C'est qui va récupérer les manettes de l'entreprise. C'est ça qui est important. Et là, on est sur des ressorts qui sont des ressorts intimes, qui sont des ressorts psychologiques, psychanalytiques. C'est-à-dire, ça pose des questions universelles qu'on va retrouver dans toutes les familles, mais là, amplifiées, parce qu'il y a tellement d'argent que c'est amplifié, mais qui sont la jalousie entre frères et sœurs, des rivalités dans la fratrie, des divorces mal digérés, qui vont être des relations père-enfant difficiles, la question de l'enfant préféré qui est tabou, mais bon, on sait bien que souvent il y a un enfant préféré, il y en a un dans lequel on s'identifie davantage.
Ce que vous soulignez, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est que ils ont la particularité de devoir regarder leurs enfants avec l'œil du patron qui évalue finalement un futur manager, quoi.
Bien sûr, alors pas tous, mais bien sûr. Quand François Pinault a trois enfants, depuis tout petit, il observe ses trois enfants, et d'ailleurs il le dit avec une certaine candeur, il en a choisi un très tôt. À l'âge de 10 ans, il a choisi François-Henri à l'âge de 10 ans. Et il ne s'est pas trop expliqué pourquoi d'ailleurs, mais pour lui c'était une forme d'évidence que c'était parmi ses trois enfants le plus à même à suivre ses traces. Bernard Arnault aussi voit ses enfants, évidemment il y a des relations affectives avec ses enfants, mais également comme des successeurs possibles. Et tout ça, ça veut dire qu'il y a une éducation qui va à côté, il y a un regard particulier qui n'est pas celui de chacun avec ses enfants. On va surveiller évidemment le cursus scolaire, les fréquentations.
Ça dépend des familles, ça dépend du parcours du père. Vous dites par exemple, chez les Arnaud, on est attaché à l'excellence académique.
Aux études, aux grandes études.
Aux grandes études, c'est pas le cas forcément chez les Bolloré, par exemple.
Oui, alors il y a des familles qui sont moins à cheval sur les études. Les Decaux, par exemple, Jean-Claude Decaux, grand entrepreneur, visionnaire, il estimait que il n'avait pas fait d'études et que ses enfants n'avaient pas besoin de faire d'études pour s'en sortir aussi. Et lui, c'était le terrain. Donc à 18 ans, 20 ans, il les a envoyés chacun dans un pays différent. Il leur a dit, vous allez monter des sociétés de copublicitaires dans votre pays et vous reviendrez. Et si vous revenez sans avoir réussi, c'est que vous n'êtes pas fait pour le job.
Est-ce qu'ils sont heureux, les enfants?
À la dure, mais...
Est-ce que les enfants sont heureux? Ceux qui sont, justement, dans le concours, entre guillemets, pour
Ils ne sont pas toujours heureux, parce que, quelle que soit la position, c'est une position pas facile. Ah, c'est ouais. Évidemment, quand on n'est pas choisi, c'est douloureux, parce que c'est pas simplement je ne suis pas choisi parce que finalement ça m'intéresse pas tant que ça, et c'est on peut, forcément celui qui n'est pas choisi se dit c'est parce que peut-être que mon père m'aime moins, que j'ai moins son affection, j'ai moins sa confiance, donc c'est douloureux. Et pour celui qui est choisi, c'est un fardeau. C'est un énorme fardeau, parce que c'est très difficile de succéder. On a en France, on a des super patrons, des gens qui sont des personnalités presque monstres.
Et d'ailleurs, on en a cité certains, mais... C'est presque le passage, j'ai envie de dire, le plus touchant dans le livre, c'est l'histoire d'Arnaud Lagardère.
Voilà, avec Jean-Luc Lagardère, son père, un personnage à la fois haut en couleur, très visionnaire, grand entrepreneur, qui vivait sur un grand train, qui se comparait à John Wayne et aux vedettes américaines, qui était une personnalité très très écrasante et qui n'a pas du tout laissé l'espace à son enfant pour se forger une réelle personnalité, et qui est à la fois dans l'admiration totale du père et en même temps dans l'écrasement du père, ce qui a fait que quand il s'est retrouvé à reprendre l'entreprise familiale, Lagardère, il a eu de cesse, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, le résultat est là, de la démanteler. Donc c'est pas facile d'hériter aussi. Ouais.
Alors, vous réalisez un tour de force dans votre livre, c'est que ce sont des monographies familiales, mais alors ce qu'on comprend quand même, moi c'est deux choses qui m'ont fasciné, pour boucler avec la question sur les riches qui se détestent entre eux, c'est à quel point ces familles vivent à la fois dans l'entre-soi, mais en même temps, entre elles, énormément. C'est-à-dire qu'il y a énormément de connexions entre les grandes familles riches françaises.
Oui, alors ça, là, on voit que l'imagination n'est pas au pouvoir, en effet. Hein. Mais ça, c'est quelque chose dont on s'en est rendu compte au fil de nos enquêtes. C'est qu'ils mettent tous leurs enfants dans les mêmes écoles, dans les écoles privées du 16e arrondissement, Saint-Jean-de-Pazzi, Franklin. Donc les enfants, forcément, se fréquentent entre eux. Ils se connaissent tous. Hein. Les fils Bolloré connaissent les fils Arnaud, connaissent les fils... ils ont la plupart... se connaissent. Après, ils fréquentent les mêmes boîtes de nuit. Des fois, ils se marient ensemble.
Ils vont en vacances dans les mêmes endroits.
Une fille Bouygues qui a épousé un fils Bolloré. Ils vont en vacances à Saint-Tropez, au parc à Saint-Tropez. Ils ont eu leur yacht amarré les uns à côté des autres. Et ils vont dans les mêmes stations de ski également. Donc, en fait, c'est un petit monde où ils se croisent, ils s'observent. Ils ont évidemment des informations les uns sur les autres, mais nous, ce qui nous a amusé d'ailleurs quand on faisait nos enquêtes, c'est qu'ils étaient très friands de savoir qui on voyait d'autre, et surtout sur cette question de la succession. Ils disaient, mais comment eux ils ont fait, comment eux... Voilà, parce que chacun, évidemment, c'est des sujets très très importants pour... En fait, la succession, c'est un sujet qui est très important pour l'entreprise, et donc pour les salariés, c'est-à-dire une succession réussie, ça veut dire une entreprise qui va bien, qui prospère, c'est le cas de la succession Deco, et évidemment, c'est important pour la famille. Donc c'est à un double niveau que ça se joue. Et une succession ratée, c'est l'inverse, hein. Ça met des familles en miettes et ça détruit l'entreprise.
Alors, c'est quoi pour vous les plus belles réussites en matière de succession et puis les plus gros fiascos?
Alors, d'abord, il y a deux cas différents. Il y a les familles anciennes, je dirais, installées, qui, elles, ont à gérer les Peugeot, les Hermès. Leur enjeu, ce sont déjà des héritiers qui sont à la gouvernance depuis même plusieurs générations.
Des générations.
Voilà, des générations, mais avec un enjeu quand même important, qui est de ne pas casser ce dont on a hérité et de ne pas être... C'était une des filles des héritières Peugeot qui nous avait dit « Ma hantise, c'est d'être la génération qui foire ». Et oui, on a quand même une responsabilité on a des aïeux qui ont construit comme ça une belle entreprise. Le contre-exemple de toutes ces familles-là, c'est unanimement évidemment les Lagardère. Et c'est alors c'était une succession aussi. Jean-Luc Lagardère était mort très brutalement, donc une succession pas bien préparée. Et c'est vrai que pour toutes les familles qu'on a étudiées, la succession Lagardère, c'est surtout le modèle à ne pas suivre.
Alors il y a une famille qui est un peu à part, qui reste un peu dans son coin, c'est les Mullier.
Oui.
Eux ne jouent pas le jeu.
Grande famille du Nord, catholique, ça rejoint ce que vous disiez sur. Donc avec Alors, cette famille, le nom dit rien à personne d'ailleurs, mais quand je vais vous dire les noms, c'est Auchan, ben oui. C'est Noroto, Kiabi, Decathlon, en gros, toutes les anciennes Pinky, ouais. Toutes les enseignes qu'on voit dans notre quotidien. Donc une famille d'entrepreneurs très très riche, mais qui veut vivre caché, pas d'ostentation, des valeurs très rigoureuses d'éducation. Et alors eux, leur enjeu, c'est un enjeu de nombre, c'est-à-dire qu'ils ont tous fait beaucoup d'enfants et ils sont près de 1500. Et là, c'est un enjeu colossal parce que comment rester unis à 1500 ? On connaît déjà, on a du mal à se connaître dans une famille où on est 20 ou 30 ou 40, de connaître certains cousins, mais alors à 1500. Et donc eux, tout leur travail, c'est de créer des liens. Donc les gamins partent en colo de vacances, les jeunes peuvent découvrir les entreprises, ils organisent des voyages pour les plus âgés, pour qu'il y ait le maximum de connexion, pour que personne n'ait envie de quitter la famille. Parce que la tentation, en fait, c'est toujours au bout de quelques générations, c'est de se dire, mais moi, en fait, cette entreprise, elle ne m'intéresse pas. Ce n'est pas parce que mon grand-père l'a fondée qu'elle m'intéresse. Donc, moi, j'ai envie de prendre ma part, mon argent, me construire une maison. Ben oui. Et puis, et de prendre mes sous. Mais si tout le monde fait ça, ben, l'entreprise, elle n'existe plus.
Donc, le patrimoine s'éparpille. C'est comme ça que disparaissent les noms des grandes fortunes.
Et puis aussi, quand un patrimoine s'éparpille, ça laisse place aux prédateurs. Bernard Arnault a essayé de faire ça avec les Hermès. Qu'est-ce qu'il fait ? Il repère des cousins Hermès qui sont éloignés, qui sont fragiles de son point de vue, c'est-à-dire il va repérer le cousin qui est en instance de divorce et qui doit payer une grosse pension alimentaire, celui qui a des dettes de jeu, celui qui... Et puis il va racheter des actions jusqu'à arriver à être à 10% au capital d'Hermès et de lancer un raid sur Hermès qui a échoué. Mais c'était... quand on se divise, on s'affaiblit aussi pour les prédateurs.
Fabrice Dalméda, il y a une spécificité des riches français ?
Par rapport aux Allemands, oui. Les Allemands sont plus héritiers. Nous, on a plus de capitaines d'industrie qui ont créé leur fortune. En gros, en France, on est un peu comme aux États-Unis. C'est 50% de créateurs, 50% d'héritiers qui sont parmi les plus riches. Là, je parle des familles milliardaires. En Allemagne, c'est 70%. Et donc, ça veut dire en fait qu'en Allemagne, la plupart des grandes familles, on trouve leur nom sous le Troisième Reich. Et ça pose des gros problèmes par rapport à l'histoire européenne. Alors qu'en France, la plupart des grandes familles, celles qui ont gardé des noms, je pense au Michelin, je pense au Peugeot, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles ne sont pas incriminables de la même manière. Donc la question de la trahison par rapport à l'histoire est différente. C'est marrant ce que vous disiez juste parce que les Mulliez, en fait, la famille Rockefeller, c'est la même logique. C'est comment faire pour ne pas éparpiller tout le patrimoine. Et c'est une question qui est cruciale. Et il y a une famille française qui a été traumatisée par la succession, c'est les Dassault. Parce qu'en fait, le Serge Dassault, quand il hérite de Marcel, n'a pas les moyens de payer sa succession. Alors, est-ce qu'il faut qu'il vende son entreprise ? Et les socialistes qui sont au pouvoir à ce moment-là ne vont pas le contraindre à vendre. Donc, c'est des questions qui touchent aussi les pouvoirs publics et c'est pour ça que c'est
passionnant. La famille Peugeot a été sauvée comme ça aussi par l'État, qui a trouvé des partenaires et qui a organisé un nouveau pacte d'actionnaires.
Vous l'écrivez, Vanessa Schneider, avec Raphaël Baquet. Finalement, la réussite des successions, elle se joue dès l'enfance, quasiment.
Oui, parce que c'est... En fait, on s'est aperçu en faisant ces enquêtes que, d'abord, l'éducation est fondamentale. Le rapport à l'argent, notamment. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on va ensevelir son enfant sous un luxe inouï. Donc, on a bien vu la différence entre les familles qui essayent de donner des valeurs, des limites, d'apprendre que, voilà, l'argent, il vient pas de nulle part, de raconter l'histoire de où vient cet argent familial, et pas en faire des fils gâtés. À papa pourri gâtés qui après vont flamber. C'est la hantise des flambeurs. Et puis aussi, évidemment, pourquoi l'enfance ? Parce que c'est dans l'enfance que se jouent tous les liens affectifs. Et une famille qui réussit à avoir des liens affectifs plus ou moins harmonieux, ça va être beaucoup plus facile au moment de la transmission qu'une famille où il va avoir des trahisons, des drames, des divorces mal digérés, y compris par les enfants, qui vont compliquer les relations avec le père. Tout ça, c'est des choses qui laissent des traces.
Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait pénétrer l'univers si fermé des grandes familles riches. Je rappelle vos deux livres, Fabrice d'Almeida, Histoire mondiale des riches, pourquoi ils sont le vrai pouvoir, c'est chez Plon. Succession, l'argent, le sang et les larmes, c'est Raphaël Baquet et Vanessa Schneider. L'univers impitoyable des grandes familles, et c'est aux éditions Albin Michel. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.
BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre.
On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaïm, notre globetrotter, et Eva Jacquot aujourd'hui pour nous parler d'un livre ancien, Cendrillon, vous verrez. Mais pas n'importe quel Cendrillon. Et tout de suite, on retrouve évidemment nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. Et puis Jean-Marc Daniel, à ma droite, professeur émérite à l'ESCP Business School et le critique attitré de la Société d'économie politique. On démarre avec le livre qui est le choix de Christian, le livre de Mariana Mazzucato, Mission économie chez Fayard. Parlez-nous de, quand même, Mariana Mazzucato, qui est quand même un peu une star de l'économie qu'on connaît pas si bien que ça.
L'économie anglo-saxonne, elle est à la moitié italienne, moitié américaine, mais elle est basée au Royaume-Uni et elle défend une idée qui plaît beaucoup au gouvernement, et c'est pour ça qu'elle fonctionne bien, je pense, au niveau mondial, c'est que les gouvernements, les États, ont un rôle très important à jouer pour défendre la puissance des économies. Alors, je dis tout de suite mon petit bémol par rapport à ces livres que je défends. Il y a une petite partie, ou une belle partie, même au milieu du livre, dans laquelle elle fait un peu du riff dans le sens où on ne sait pas trop si elle est en train de nous développer des idées ou de nous faire une plaquette marketing en disant « Vous, État, vous, collectivité locale, si vous avez besoin de moi, vous savez, il y a mon labo, n'hésitez pas. Je suis là pour vous aider si des fois vous voulez faire des choses. »
Mais elle n'est pas prof.
Non, pas du tout. Elle gère son... alors peut-être qu'elle donne... Elle a des enseignements sûrement. Mais il y a un vrai business de son centre qui est d'ailleurs tout à fait remarquable. Allez sur son site internet, il y a une foule d'études absolument passionnantes. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait dans ce livre? Elle fait la même chose que dans les livres précédents. Elle tire ce fil qui consiste à dire l'État dans l'économie joue un rôle extrêmement fort, extrêmement puissant. Pourquoi le livre s'appelle Mission Économie? Parce qu'elle fait référence à la mission Apollo en disant quand Kennedy lance la mission Apollo, il sait qu'il va mettre des milliards de dollars sur la table, mais il connaît pas le résultat. Et donc, l'État va prendre le risque. Et un État qui sait prendre du risque dans l'économie, c'est ça qui est important aujourd'hui. Et les impacts, les conséquences en termes d'innovation pour l'économie américaine vont être absolument fabuleuses. Voilà un État qui a su prendre des risques, mettre des milliards, qui a pas fait attention. C'est l'argent des contribuables. Et puis, si on perd l'argent, et puis on sait jamais ce que ça va donner. Attention à l'équilibre budgétaire. Non, il a claqué vraiment beaucoup d'argent et ça a été extrêmement positif. Donc, c'est l'occasion pour le livre aussi de remettre du coup en cause plein d'idées qu'on a dans la théorie dominante. Par exemple, il n'y a que le secteur privé qui crée de la valeur. Ben non, le secteur privé, oui, crée de la valeur, mais quand il est bien aidé par l'État, et notamment par l'innovation. Est-ce qu'il y a un effet d'éviction pour Mazzucato? Non, il n'y a pas d'effet d'éviction. L'effet d'éviction consiste à dire plus l'État investit, moins il y a de place pour l'investissement privé. Ça consisterait à penser qu'il y a un niveau fixe d'investissement dans chaque économie, et ce que l'un des acteurs fait, l'autre ne peut pas le faire. Pas du tout. Regardez, l'investissement public sert à booster l'investissement privé. Ils sont très complémentaires. Autre mythe, il faut que l'État soit géré comme une entreprise privée. Alors ça conduit à la privatisation. Généralement, ça fait les mêmes services que le service public, mais plus cher. Ça conduit à aller chercher des gens comme McKinsey, dit-elle, sans référence à la France, de manière plus mondiale. Et elle cite une étude qui dit que ça coûte à peu près 1,8 fois plus cher de faire par des cabinets extérieurs ce que des États pourraient faire, des fonctionnaires pourraient faire. Et en plus, l'État, en faisant ça, perd la compétence interne de pouvoir aller sur des sujets. Et puis, un dernier mythe, parce qu'il y en a 5-6, je ne sais plus combien il y en a en tout, mais un dernier mythe qui m'a bien plu, ça consiste à dire, ok, vous voulez mettre de l'argent public dans l'investissement, mais comment l'État sait choisir les secteurs qui vont marcher ou pas?
C'est toujours l'objection.
Et on peut perdre de l'argent, à dire. Donc il y a toujours ce fameux exemple de Cylindra, qui est cette société américaine qui faisait des ENR et qui a reçu beaucoup d'argent public et qui s'est plantée. Donc ça a coûté un peu plus de 500 millions de dollars aux contribuables américains. Mais elle nous dit, regardez, à peu près en même temps, l'économie américaine, le gouvernement américain a mis aussi à peu près 500 millions de dollars chez Tesla. Et là, ça a marché et tout le monde est content. Ouais. Ce qui ne va pas, c'est que quand il y a un problème, et bien l'État perd tout, mais quand ça marche bien, il récupère rien, alors qu'il a été quelque part un capital risqueur. Donc voilà, tout ça pour nous dire quoi à la fin ? Aujourd'hui, on est dans une transition climatique et sociale qui réclame de l'État qu'il soit, qu'il n'hésite pas à investir dans plein de choses, y compris si ça marche pas pour lutter contre le changement climatique. Ouais. Mais il faut que cet État risqueur qui sait mettre de l'argent, il faut le retrouver aujourd'hui. Et même quand c'est un échec, et là elle donne l'exemple du Concorde, même quand c'est un échec, eh bien il y a des retombées positives en termes d'innovation qui sert l'économie privée. Et c'est ça les économies fortes, c'est le mix public-privé.
Vous avez cité Jérémy Rifkin, il publie un nouveau livre. Je pense que vous n'échapperez pas à nous en faire un compte-rendu, messieurs. Jean-Marc Daniel.
Oui, alors sur ce livre, effectivement, c'est un livre qui reprend ce qu'elle disait dans les livres précédents. D'abord, une remarque sur la traduction. Autant j'étais très favorable et enthousiaste la semaine dernière pour la traduction de Amartya Sen, autant là, c'est bourré d'anglicismes, de contresens. Je pense que les éditeurs devraient faire un effort pour un livre de cette importance pour faire relire la traduction et la remettre au propre. Alors, ceci étant dit, sur le contenu, en fait, le livre est en quatre parties. Ce que dit bien Christian, c'est tout, un peu toute la partie autour d'Apollo. Alors, il y a en particulier une page où il y a toutes les conséquences, oui, en forme de graphique, de dessin, des conséquences d'Apollo. Et en particulier, j'ai été frappé par le fait que les chaussures Nike sont directement issues du programme Apollo.
D'accord, bon.
Donc,
okay.
Elle dit, donc pour illustrer les propos qu'a tenus Christian, c'est effectivement, vous voyez, il y a une espèce d'osmose entre... Mais cette partie-là, assez vite sombre dans l'anecdote, pour moi, elle est assez peu convaincante. Elle l'affirme plus qu'elle le démontre. En revanche, la toute première partie sur les défauts du capitalisme, les sept faiblesses, là, les sept mythes, il y en a certains qui sont assez bien vu, en particulier quand elle dit que l'État n'est pas une entreprise, je suis d'accord. Je suis d'accord pour que l'État reste dans son domaine, ne se mêle pas de gérer ce que des entreprises privées peuvent gérer. Elle dit l'État doit avoir d'autres critères que les entreprises. Moi, je suis d'accord. L'État doit rester dans son coin et abandonner tout un tas de secteurs. De même, quand elle dit, on est persécuté par l'immédiateté. Maintenant, les comptes sont trimestriels, la comptabilité nationale sort des comptes trimestriels, les entreprises... Or, on perd le sens du long terme, l'obsession du... Je suis assez d'accord avec ça. Après, encore une fois, elle fait des diagnostics, après elle rentre dans une idéologie où elle pose, elle affirme, mais elle démontre assez peu, et puis il y a la quatrième partie, où elle fait un peu plus de théorie économique. En particulier, elle dit, le vrai débat en ce moment, c'est entre ce qu'elle appelle les MFT, la théorie sur les failles du marché, qui suppose qu'on améliore le marché, qu'on rende le marché de plus en plus conforme à la vision idéale que donne la concurrence pure et parfaite. Ouais. Et en face, elle dit, maintenant, il y a la théorie monétaire moderne. Comme elle dit du bien de Stéphanie Kelton, vous savez combien Stéphanie Kelton joue un rôle important, c'est ma chouchoute intellectuelle.
Dans votre vie, depuis deux ans.
Depuis deux ans,
je ne pense que Stéphanie Kelton.
Donc, cette partie-là est assez bien menée, même si, encore une fois, globalement, je trouve qu'il y a une forme de paresse intellectuelle à beaucoup asséner et assez peu construire de raisonnement. Bon, et puis les anecdotes, bon, c'est vrai, Concorde, les Nike, Apollo, Kennedy.
C'est plus que des anecdotes.
Oui, non, c'est un récit. C'est pas très scientifique, en mais c'est un récit.
Alors, on passe à votre choix, Jean-Marc Daniel. L'art de la guerre dans le business de David Brown, c'est aux éditions Buchet-Chastel.
Oui, alors David Brown, c'est un journaliste qui tient des chroniques sur YouTube qui s'appelle Business Wars, où il raconte des vies d'entreprises sous un aspect qui est un aspect des conflits que peuvent générer les entreprises entre elles, de la concurrence, de la façon dont elles se comportent en situation conflictuelle. Donc il en a rassemblé certaines de ses chroniques, d'autres, nous dit-il, sont des textes originaux, et il expertise, il analyse 27 conflits, 27 sagas industrielles autour du livre de Sun Tzu sur l'art de la guerre, ou le titre. Bon. Alors, d'abord, le cadre intellectuel qui consiste à se référer à Sun Tzu est assez artificiel, ce qui fait qu'il est assez évacué. Il est assez vite évacué. Sun Tzu intervient au travers d'une citation au début de chaque chapitre.
D'accord.
Et puis ensuite, il raconte des histoires. Donc, en revanche, c'est bourré d'anecdotes, effectivement, avec des portraits de personnages. C'est assez bien raconté, c'est bien écrit. Il y a des conclusions. À la fin, pour essayer de se dégager de Sun Tzu, la conclusion ultime, c'est une phrase de Clausewitz. On est toujours dans la guerre.
D'accord.
Bon, donc l'aspect guerre, Sun Tzu, Clausewitz, il faut évacuer. En revanche, les anecdotes, les histoires, les constructions intellectuelles sont à la fois passionnantes et à mon avis, très, très illustrative de ce que, de la façon dont a évolué le capitalisme. Le seul reproche que je ferais, c'est que c'est très américain. Ah, c'est-à-dire que, il y a la seule chose où on parle de H&M et de Zara comme entreprise qui se sont, mais tout le reste, ouais, c'est des entreprises américaines, et H&M et Zara, c'est sur le marché américain. C'est comment, ouais, la façon, ouais, elles se sont confrontées sur le marché américain. Donc, je comprends bien que le site soit orienté vers ça. Ça, c'est un peu la limite du livre. Sinon, c'est un livre qui est passionnant.
Christian Chavagneux.
Je partage en partie ce que vient de dire Jean-Marc. Hein. La mise en scène Sun Tzu, on peut l'évacuer tout de suite. Ça sert à rien. Les histoires ont pu être mises dans une case comme dans l'autre. C'est quand même un gros livre. Donc, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est parce qu'en fait, il y a 27 combats, mais en fait, il y a plus de quarantaine d'entreprises qui sont citées. D'accord. Et dont on raconte les histoires. Donc, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est dire tiens, j'ai une heure devant moi, ouais, je vais prendre le bouquin parce que vous êtes épuisé par ces récits et ces noms, ces multiplications. Donc, faut en lire une ou deux, laisser reposer et puis revenir. Et en même temps, comment il arrive à faire quand même une quarantaine d'histoires d'entreprises, vous vous rendez compte le travail énorme. Il y a quand même le chef d'entreprise, ce héros, hein. C'est que l'histoire est, ouais, toujours racontée que du point de vue du dirigeant qui peut avoir échoué, mais qui a fait tel choix. Et si on allait chercher un petit peu ce qui se passait à l'intérieur des entreprises, ouais, peut-être que ça aurait pris un petit peu plus de temps.
Il y a une extrême
qui fait que, bon, c'est pas toujours... Alors, je suis aussi d'accord avec Jean-Marc quand il dit que c'est très américano-centré, toujours très surpris de voir combien ces auteurs américains pensent qu'il n'y a que des entreprises américaines. Alors, il y a H&M et Zara qui sont, c'est vrai, aux États-Unis, mais il y a aussi Adidas.
Oui, c'est vrai.
Et il y a aussi Nintendo. Et ça, Nintendo, c'est vraiment intéressant. Une entreprise qui est née au 19e siècle et qui faisait des cartes à jouer. Ah ouais. Et après, qui va faire des petits jeux d'arcade. Ouais. Et dans les jeux d'arcade, à un moment donné, ils vont... Je ne sais pas si vous vous rappelez, Emmanuel, ces petits jeux qu'on ouvrait, ouais, il y avait un personnage qui essayait de monter.
Le Donkey Kong.
Et il y a un singe qui lui lançait des tonneaux.
C'est vrai que je l'ai toujours.
Et mais moi aussi, je crois que j'ai le mien. Et ce qui est marrant,
ça vaut très cher,
c'est que pourquoi est-ce qu'il a une casquette? C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à faire l'animation des cheveux. Et pourquoi il a une moustache? C'est parce que les pixels qu'on avait qui n'étaient pas très précis, ah ouais, dès que vous dessiniez une bouche, ça ressemblait de moustache. Donc il dit, on va faire une moustache. Et il s'appelait Jumpman, le, ouais, petit personnage. Ouais. Et vous savez pourquoi il devient Mario? C'est parce qu'en fait, aux États-Unis, dans des jeux d'arcade, il y a un des propriétaires des arcades qui vient dire, vous êtes en retard pour le loyer, qu'est-ce que c'est que ce bazar et tout. Et le gars ressemble absolument au personnage, et comme il s'appelle Mario, il décide de l'appeler Mario. C'est pour ça que le personnage s'appelle Mario. Dernière petite critique, c'est pour dire que contrairement à Mazzucato, qui met bien en scène le fait que le privé ne réussit qu'avec le public, là, le public est complètement évacué, sauf pour General Motors quand il a fallu les sauver, ouais, mais sinon le secteur public n'existe pas, le secteur privé vit dans un monde complètement à part du reste de la société, du reste des États, et il n'y a pas de relation politique. Ça, c'est dommage, ça manque. Par contre, si vous voulez passer un bon moment, vous avez plein de petites histoires à lire.
Eh ben, formidable, voilà, deux livres importants qui ne vous décevront pas. On retrouve tout de suite notre bibliothécaire Eva Jacquot qui nous raconte l'histoire de Cendrillon.
BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain.
Et on se retrouve avec notre bibliothécaire Eva Jacquot. Nous rions parce qu'elle va nous parler de Cendrillon, mais pas la Cendrillon des contes de fées, la Cendrillon de 2007, la Cendrillon d'Éric Reynard. Eva Jacquot.
Oui, en effet, alors Éric Reynard a écrit ce livre pendant la campagne présidentielle de 2007. C'est un roman qui traite des classes moyennes. C'est un réquisitoire sous forme d'analyse du système économique français et une critique de la société et surtout de la bourgeoisie de gauche. Alors, il met en lumière les vies de quatre protagonistes qui ne se croisent jamais, mais ouais, dont les histoires se mélangent. On peut citer par exemple Laurent Dalle, c'est un trader multimillionnaire qui s'enfuit après avoir créé un fonds alternatif. Alors Éric Reynard s'est inspiré de ses souvenirs d'adolescence pour créer ces personnages qui sont en quelque sorte ses avatars.
Alors il y a ces personnages, mais les acteurs du roman finalement ce sont aussi le capitalisme financier, l'économie du virtuel, la ségrégation sociale, etc., etc.
Oui, exactement, et je vais vous citer une phrase du roman. L'idée fixe des actionnaires, des financiers et des fonds d'investissement est devenu le profit au détriment du bien public. La question de l'intérêt général est désormais totalement subordonnée au rendement du capital.
Alors, c'est un roman évidemment sur ceux qui aussi quelque part subissent un petit peu ce que lui appelle les lois du marché.
Oui, exactement. Et le point commun des personnages de ce roman, c'est d'avoir un père humilié dans son travail. Alors, comme dans Le Moral des Ménages qu'Éric Reinhart écrit en 2002, l'histoire débute dans la banlieue, dans les lotissements à l'américaine et ses pavillons. L'auteur étudie l'impact de cet environnement sur ses personnages, sur leur personnalité et leur désir de s'en échapper. Je cite, « Les parents avaient concrétisé leur rêve de devenir propriétaire et acheter une maison d'inspiration californienne située dans un lotissement Levitt, en cours de construction à une quarantaine de kilomètres au sud de Paris. » Alors, c'est un schéma assez cyclique dans ce livre. Les héros veulent s'extraire de leur classe sociale qu'ils ont hérité donc de leur famille et dont ils ont vraiment honte. Ici, le rêve américain, c'est un rêve désenchanté. La maison californienne dont on parle, c'est la maison des parents de Laurent Dalle. Elle côtoie les déterrains boueux et elle a pour horizon une ligne à haute tension.
Et là, il passe beaucoup de temps à essayer de pénétrer les rouages du monde de la finance, Éric Reinhart.
Oui, en fait, il s'introduit toujours à travers la vie du personnage de Laurent Dalle au cœur des bureaux de la Défense. Il analyse les mécanismes du marché. Il livre une vraie description précise du middle office et des hedge funds. Alors, Éric Reinhart cherche à comprendre les motivations des traders, ces personnages qui sont désignés comme des ennemis. Dernière citation, cet objectif que Laurent Dalle s'était fixé de devenir trader, se distinguer du tout venant du salariat par une fonction prestigieuse, se matérialiser sous ses yeux toute la journée. Alors, en écrivant Cendrillon, Éric Reinhart, il dénonce cette tendance de la société à vouloir formater les individus à travers les questions de réussite sociale, de réussite sociale et scolaire, de l'échec et du chômage.
Bon, c'est pas la Cendrillon du groupe Téléphone, c'est pas aussi sordide, non. Mais c'est pas la Cendrillon des contes de fées non plus.
On est loin du conte.
Merci beaucoup Eva Jacquot. Allez, on retrouve celui qui nous fait voyager dans le monde entier chaque semaine, notre globetrotteur Belaouda Abdelhaim.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs.
Cher Benaouda, bonjour.
Bonjour.
Allez, vous avez décidé cette semaine de commencer par vous intéresser au développement des avions de combat chinois.
Oui, lors de son discours inaugural du 16 octobre devant le congrès du Parti communiste, le président chinois Xi Jinping a avancé un impératif de création d'une armée de classe mondiale. On a un aperçu de cette ambition sous un aspect industriel, stratégique, avec ce document rédigé sous la direction de Gu Songfeng. C'est le membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de l'ingénierie chinoise, un très grand spécialiste de l'industrie de l'aviation militaire. Il y a là une récente traduction en anglais de ce texte le plus complet connu dans les limites du secret défense, bien entendu, sur le développement du projet d'avion de chasse chinois, dit de cinquième génération, baptisé depuis Jian 20, qui veut dire anéantissement 20. La version originale de ce document date en fait de la fin des années 1990, début des années 2000. On y voit alors toute une volonté de réduire l'écart, je cite, avec les progrès américains et russes qui formaient là les deux balises à suivre. Il était alors requis de viser une capacité de furtivité comparable à celle du F-22 des États-Unis, développer des moteurs à la hauteur, une manœuvrabilité d'ordre supérieur, un grand rayon opérationnel, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. On a ensuite les critères industriels de fabrication et un calendrier très précis à 15 ans dans un document censé mener jusqu'à 2021 en fonction des plans quinquennaux propres au système marxiste-léniniste. Nous avons déjà eu l'occasion d'expliquer sur BFM Business que tout ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. Somme toute, il n'y a là rien d'exceptionnel à la mesure d'un programme d'armement d'une telle envergure. La motorisation notamment a posé problème. Il a fallu solliciter une fois encore la Russie. Mais ce document de l'intérieur, dont la revue de Diplomate, qui est basée à Tokyo, a publié aussi la version originale, demeure particulièrement instructif au regard de l'histoire militaire contemporaine.
Ah, vous vous intéressez, Benaouda, ensuite à l'expérience des classes ouvrières avec la gauche au pouvoir en Amérique latine.
Oui, alors on sait que le second tour de la présidentielle au Brésil va avoir lieu le 30 octobre, oui. Avec une possible victoire sur le fil du chef du Parti des Travailleurs, Lula Inácio da Silva. Qu'est-ce que les classes ouvrières ont en fait obtenu ou non Ouais. Lorsque la gauche est au pouvoir en Amérique latine, la vague rose est-il écrit ici. Cet ouvrage de recherche très épais, très fourni, du Centre d'études pour le développement du travail et de l'agriculture, le CEDLA à La Paz, en Bolivie, s'appuie sur l'expérience bolivienne. Le document, qui s'appuie sur vraiment beaucoup, beaucoup de sources, traite plus particulièrement des évolutions dans deux villes du temps du gouvernement d'Evo Morales, qui a été au pouvoir. Ouais. C'est le président du mouvement pour le socialisme de 2006 à 2019. L'angle d'analyse est a priori tout à fait favorable, comme le titre l'indique, sans pour autant occulter ce qu'il est advenu. Et c'est à travers toute une démonstration que l'on saisit ici l'importance fondamentale d'une analyse non pas à l'échelle d'un État ou d'un continent, mais de territoire, ouais, de localité. Et cette transformation supposément par le bas qu'a voulu le mouvement pour le socialisme n'a pas été le même à Santa Cruz et à El Alto, qui sont les deux villes les plus peuplées du pays. À Santa Cruz, les relations pragmatiques, verticales, je cite, des catégories ouvrières avec l'État, se sont traduites par une continuité en fait par rapport au précédent pouvoir de droite. Elles n'ont jamais été capables, je cite, encore d'une mobilisation indépendante. Et à cet égard, Santa Cruz est restée à l'écart de ce mouvement. Alors qu'à El Alto, les catégories ouvrières étaient au préalable hautement mobilisées, ouais, indépendantes, mais le gouvernement a fini là aussi par intégrer leur organisation sociale locale, originale, pour les fondre dans la structure de l'État. L'État prend le dessus sur le mouvement ouvrier, quelle que soit la forme du pouvoir en place. Ce qui n'a pas empêché que la précarité, l'informalité et la pauvreté aient persisté, je cite toujours, pour une bonne partie de la classe laborieuse d'El Alto.
Ah, passionnant de descendre à ce niveau concret d'expérience. Et alors, qu'est-ce qui se passe, Ben Aouda, en milieu de vie dans les nations riches?
Alors, ce n'est pas un texte comme tant d'autres qu'on peut voir dans les magazines sur une perception de l'ère du temps, mais vraiment une recherche effectuée par une demi-douzaine de professeurs d'économie aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Singapour, en s'appuyant sur des données très précises de panels portant sur environ 500 000 de personnes vivant dans les pays membres de l'OCDE. C'est vous dire on a une base sérieuse. Ouais. Alors, que nous décrit ce travail? C'est un panorama qui montre une incontestable détérioration globale de cette crise spécifique du milieu de vie. Les personnes dans la quarantaine, dans la cinquantaine, se révèlent de plus en plus sujettes, en proportion, à une hausse du stress au travail, à des maux de tête, à de la dépression, de la dépendance à l'alcool et aux pensées suicidaires. C'est à 45 ans que, semble-t-il, le niveau le plus élevé d'anxiété au travail se manifeste, avec une tendance à ce que cet âge recule de plus en plus. Donc on est au milieu de vie de plus en plus tôt en réalité. Et dans cette recherche, on peut voir que la contrainte mentale dans ces nations riches touche un pic en milieu de vie indépendamment de la nationalité, de la situation familiale, mais aussi, c'est très important et c'est souligné, du niveau de revenu. En clair, l'argent ne fait pas le bonheur, semble-t-il. Bien entendu, le constat est à affiner en lisant le texte, mais c'est vraiment frappant. Ocea Guintela et ses co-auteurs jugent que la gravité de ce problème du milieu de vie, un problème sociétal fondamental, n'a pas été saisie par les décideurs de ce monde, où ces adultes, écrivent-ils, résident dans certains des pays les plus sûrs et vivent, je cite, à l'ère la plus prospère de l'histoire de l'humanité.
Juste une question, Ben Aouda, on ne parle que de la vie au travail, ou bien ça intègre aussi
ça intègre l'ensemble la vie personnelle ça intègre la vie personnelle, la vie au travail et plus particulièrement l'effet du stress au travail sur la vie personnelle.
Eh ben, passionnant, passionnant. Merci beaucoup Ben Aouda Abdelhaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui?
Alors moi, j'ai choisi une étude, en fait, Capitalisme sous perfusion, une étude qui essaye d'estimer à combien s'élève le montant des aides publiques aux entreprises. Eh alors, il y a plein d'estimations, ils arrivent entre l'équivalent de 6,5% et 8,5% du PIB, selon que vous rentriez les niches fiscales déclassées ou pas. C'est un travail statistique intéressant. Il y a eu d'autres travaux statistiques, Gérard Darmanin avait dit 140 milliards, ils arrivent à 157 milliards. On est vraiment autour de 5-7% du PIB, 5-6%. Du PIB, c'est vraiment ça, c'est énorme. Et ce que montre aussi, ce que faisaient pas les autres études, ce que montre celle-ci, c'est que de 1979 à aujourd'hui, ça a explosé, et surtout depuis le début des années 2000. Toutes les réflexions sur le néolibéralisme, le retrait de l'État, il y a des choses intéressantes là à comprendre sur, encore une fois, l'imbrication entre le public et le privé.
Enfin, le cercle vicieux, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'aides aux entreprises, parce qu'il y a aussi beaucoup de fiscalité.
Ça, c'est votre conclusion à vous, c'est pas celle de l'étude.
Je me doute bien. Je rappelle juste le classement de la fiscalité mondiale qui est sorti aujourd'hui dans les grands pays. La France, 38e sur 38. Bon, voilà.
C'est le grand discours. Les entreprises reçoivent 140 milliards, mais elles paient aussi 140 milliards. Donc on pourrait regarder ça d'un peu plus près.
Supprimons les deux, Jean-Marc, vous êtes d'accord?
Oui, c'est
d'ailleurs. Ah ben pourquoi pas? Ah, mais bien évidemment.
C'était d'ailleurs une de mes chroniques dans Les Échos, que j'invite les auditeurs à lire.
Dans votre livre, oh, il est fort.
Dans mon livre,
ah, vivement le libéralisme. Allez jusqu'au bout, Jean-Marc.
Vivement le libéralisme, bon. Qui rassemble mes chroniques dans Les Échos.
Alors, je ne.
Et c'est pas le seul livre qui vient de sortir en plus.
C'est ce livre qui, c'est dans ce livre qui vient, il vient de sortir votre bouquin.
Oui, mais il en a sorti un autre de plus.
Ah oui, il y a le physiocrate. Voilà. Comment faites-vous pour faire tout ça? Bon, en attendant, Jean-Marc, je ne voudrais pas être désagréable, mais le pays qui ne se réjouit pas forcément d'avoir versé dans un libéralisme à tout craint, c'est le Royaume-Uni.
Oui, c'est le Royaume-Uni qui est dans une passe difficile, mais vous savez, en tant que Bordelais, j'ai confiance. Ils vont s'en sortir. Pour savoir et comprendre comment ils vont s'en sortir, il faut lire le livre de Pauline Schnapper, La politique au Royaume-Uni, qui est dans la collection, c'est un repère dans la collection. Repères de la découverte. Donc c'est un livre très intéressant qui raconte ce système de la démocratie britannique que l'on croit connaître et en fait qui réserve énormément de surprises et qui est aussi très marqué par la tradition. Elle montre bien le rôle que jouent des décisions qui ont été prises sous les Plantagenets, qui ont été prises au XVIIIe siècle. Elle explique ça assez bien et ça permet de comprendre ce qui va arriver à Liz Truss bientôt.
Bon, et moi je termine avec un petit livre absolument formidable. C'est une nouvelle édition, le livre de Jean-Michel Hougourlian. Ça s'appelle Le travail qui guérit, chez Plon. Jean-Michel Hougourlian, il est psychiatre et il s'est immergé dans les usines apprenantes de la fondation Amipi. Il y en a 6 en France. Elles fabriquent du câblage électrique et leur particularité, c'est que tous les opérateurs sont des handicapés mentaux, trisomiques, autistes et autres maladies mentales. Eh bien, il regarde comment ça se passe et c'est un récit absolument extraordinaire. Et la conclusion qu'il fait, c'est que à l'hôpital, ces gens qui travaillent dans les usines seraient des légumes. L'usine réussit là où la psychiatrie a échoué. Je trouve que c'est un très beau récit, c'est une très belle leçon. Alors c'est pas facile tous les jours, vous le verrez dans le livre, mais c'est vraiment un livre passionnant et émouvant. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.